De l'autre côté de la musique, une émission proposée, présentée par Michel Giardella, et une autre manière aussi d'aborder la musique classique, avec aujourd'hui comme sujet qui va nous emmener dans des sphères musicales mais également historiques. Michel Giardella, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse proposer le sujet du jour avec également l'invité qui va apporter une contribution précieuse sur cette sphère artistique, musicale et historique.
Alors aujourd'hui, la rencontre de trois personnages importants de l'histoire européenne. Alors Gustav Mahler, compositeur viennois de fin du siècle, début du 20e. Thomas Mann, grand écrivain allemand. Et Luchino Visconti, grand cinéaste italien, sur le thème « Mort à Venise ».
Alors pour Gustav Mahler, et justement pour donner un regard en ce qui concerne quelques spécificités, vous avez donc souhaité inviter à côté de nous une personne qui va apporter beaucoup d'eau à notre moulin, Michel.
Bien sûr, moi je connais très peu la littérature allemande, je connaissais « Mort à Venise », je l'avais lu, mais bon... pas très riche, donc j'ai rencontré Marie-Hélène, qui était professeure d'allemand, donc qui va bien nous aider et qui va nous donner un petit regard sur Thomas Mann, peut-être un grand regard même.
Je vais essayer. Bonjour.
Bonjour Marie-Hélène Barracan et bienvenue dans l'émission de l'autre côté de la musique. Je vous laisse introduire l'émission Michel.
Voilà, alors aujourd'hui... La 5e symphonie de Gustav Mahler, puisque son 4e mouvement est la musique du film. On verra un peu l'historique de ce mouvement. 5e symphonie de Gustav Mahler.
We'll be right back. diminution progressive de cette ouverture de la symphonie numéro 5. Voilà. Michel, on peut parler d'une symphonie un peu emblématique dans l'œuvre de Gustave Mahler ?
Oui, bien sûr, parce que ces quatre autres symphonies qu'il avait écrites auparavant, elles étaient sur des thèmes en allemand, sur un recueil qui s'appelle Le corps merveilleux en allemand, et seulement pour ceux qui ont étudié l'ancien allemand, ils doivent être au courant, bien sûr. Et c'était ce corps merveilleux, ces thèmes, il les a repris dans ses quatre premières symphonies, et là, il abandonne complètement ces anciens thèmes. Et il aborde cette cinquième symphonie avec ce qu'on a entendu, cette solennité dans cette espèce de marche funèbre, qui est quand même quelque chose de typique aussi de Mahler. Mahler donc se situe entre le 19e et le 20e siècle. Il initie la transition du post-romantisme vers le modernisme. Et ce compositeur autrichien bouleverse le genre symphonique et devient l'un des symboles du romantisme exacerbé. Ses œuvres sont monumentales, bien sûr. L'orchestre est démesuré et il essaie d'embrasser un monde où ses symphonies constituent des chefs-d'œuvre du romantisme, jouant sur les contrastes entre la trivialité et la gravité. Il excelle dans la écriture contrapuntique, libre, dissonante et de plus en plus audacieuse. De son vivant, c'est davantage son talent orchestral que son génie de compositeur qui sera célébré par l'évolution subtile de principes à lesquels son œuvre participe. Il influence notamment Schoenberg et Shostakovich. En 1897, il s'installe à Vienne et il acquiert la réputation d'un chef d'orchestre extraordinaire. Il faut dire que quand on regarde la vie de Mahler, on est surpris par ce débordement d'activité. Il était directeur de l'opéra de Vienne, il dirigeait 3 opéras les soirs. En journée, il répétait les futurs opéras qu'il allait donner, et il donnait des concerts dans toute l'Europe, et en plus, il composait. C'était quelqu'un qui était extraordinairement actif. D'ailleurs, sa santé, il le paiera certainement. Ce sera une des causes de sa mort. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est que cette symphonie, elle a été écrite vers 1902, vers 1900. Et à cette époque, à Vienne, en 1900, quand il arrive, Mahler, il y a un mouvement artistique extraordinaire. Ces gens à Vienne veulent se libérer des traditions autrichiennes, des vieilles traditions royales. Et ces artistes, j'ai retrouvé leur projet. Leur projet, c'est ce qu'on appelait la sécession. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ces artistes, leur but, c'était de réunir les forces créatrices de ce pays, instaurer les contacts avec les artistes étrangers. Ils feront venir, par exemple, Rodin, Seurat, ils feront venir Signac, ils feront venir tous les grands impressionnistes aussi vivants à Vienne. Donc, ils avaient une ouverture d'esprit. Ils prôneront un échange international des idées. Et, chose curieuse à l'époque, en 1900, ils veulent lutter contre l'élan nationaliste des pays européens. Ils ont dû rater leur coup quand même. Et ils veulent renouveler les arts appliqués, créer un art total, opposer une nouvelle expression artistique véritable à l'art défraîchi des salons officiels viennois. Alors les animateurs de ce mouvement, c'est quand même Gustav Klimt, qui est quand même un peintre extraordinaire, Gropius l'architecte, avec qui Alma Mahler aura une relation extra-conjugale, Oskar Kokoschka, Egon Schiele et l'architecte très célèbre Otto Wagner. Tous ces artistes ont collaboré à l'extraordinaire bâtiment du Kunsttempel à Vienne, dont le principal, dont sur le fronton, il y a écrit « À chaque époque son art, à l'art sa liberté ». Donc c'est quand même intéressant ce mouvement qui se trouve au moment où Mahler compose cette symphonie. Mais il partageait son temps entre deux endroits, Mahler, à Vienne, et quand il prenait du repos, il allait à Meyerning, c'est une petite ville au bord d'un lac, et il avait une toute petite maison en bois sur le Wörthersee, je sais pas,
Wörthersee.
Voilà, merci, voilà. Et c'est là qu'il composait ses symphonies un peu isolées du monde. important à cette époque-là, et nous en reparlerons après, parce que invité un jour chez la belle-sœur de Clémenceau, à Vienne, il rencontre une femme qui s'appelait Alma Schindler. Et Alma Schindler deviendra l'épouse de Mahler, mais lui apportera toute cette connaissance artistique de ce mouvement qui s'appelle la succession. Voilà. Donc il fallait parler un peu le resituer. Et donc Mahler donnera des symphonies, et ces symphonies à Vienne, bien sûr, et il aura comme auditeur quelqu'un qui était passionné de musique, qui adorait Wagner et qui adorait aussi Mahler, c'est
Thomas Mann.
Voilà, alors je te passe le relais, Thomas Mann.
Oui, donc je vais parler surtout de La mort à Venise, qui a été publiée en 1912, donc écrite par Thomas Mann, et en allemand c'est Der Tod in Venedig. Donc, la ville de Venise est le grand hôtel des bains sur l'île de Lido où séjourne Mann en mai-juin 1911, sont au cœur de cette nouvelle inspirée par la mort du compositeur Gustav Mahler que Thomas Mann apprend précisément le 18 mai 1911. Mais c'est aussi à Venise qu'est mort en 1883 Wagner, à qui Thomas Mann dédie un essai durant la même période. Enfin, c'est sur la plage du Lido que Mann voit se réveiller son homosexualité, latente, devant la beauté d'un jeune noble polonais de 14 ans. Et cette œuvre que Mann désigne comme une tragédie est une réflexion sur la mort, l'amour, le mal, l'art et la culture. Donc, pour en revenir au résumé de cette œuvre, il s'agit d'un écrivain. Chez Thomas Mann, alors que chez Visconti, c'est un musicien. Mais là, c'est un écrivain munichois, reconnu et anobli dans la cinquantaine, qui est le héros de ce roman. Et ce Gustav von Aschenbach est troublé par une mystérieuse rencontre lors d'une promenade. Il part en voyage sur la côte adriatique et finit par aboutir à Venise, une ville dans laquelle il ne s'est jamais senti à l'aise. Et dans son hôtel du Lido, le grand hôtel des bains, Aschenbach découvre Tadzio, un jeune adolescent polonais qui le fascine par sa beauté. Il n'ose l'aborder, le suit dans la ville de Venise. Aschenbach, en proie à une sombre mélancolie et une sorte de fièvre dionysiaque, donc une fièvre sensuelle, succombe à l'épidémie de choléra asiatique qui fait alors rage dans la ville. Il meurt sur la plage en contemplant une dernière fois l'objet de sa fascination. Et c'est vrai que cette œuvre, qui est profondément personnel et en rupture totale avec le naturalisme des débuts de Thomas Mann. Thomas Mann a écrit de nombreuses œuvres du style des naturalistes français, très près de la réalité, de ce qui se passait réellement, cette période troublée, etc. Bon, mais en fait, La mort à Venise change totalement de style. Il exprime les angoisses d'un homme aux prises avec ses propres démons, marqué par la maladie et la mort de ses proches. Sa femme souffre d'une maladie pulmonaire et sa sœur Carla s'est suicidée l'année précédente. Et il aura une autre sœur qui s'est suicidée également, du reste. Et enfin, par la menace de guerre qu'il perçoit dans la crise franco-allemande de 1911. Il est vrai que nous étions tout proches de la guerre de 14-18, effectivement. Et c'est vrai que dans cette œuvre, l'écrivain attache vraiment de l'importance à des thèmes sur lesquels il n'était pas intervenu auparavant, c'est-à-dire, évidemment, comme il commence un peu à prendre de l'âge, la mort, l'amour, le mal, l'art et la culture, ça a toujours été quand même, malgré tout, ses aspirations, mais Mais bon, il se pose beaucoup de questions. Et alors, pour en revenir à cette œuvre Mort à Venise, qui a été reprise, qui a exercé une sorte de fascination sur beaucoup de monde, notamment sur Visconti et Benjamin Britten. Visconti en tire Morte in Venezia en 1971, donc un film que hante effectivement l'adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Et Visconti fera d'ailleurs de l'écrivain du récit original un compositeur, hein. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas dans le film de Visconti, ce n'était pas un écrivain mais un musicien. Et Britten qui compose en 1973 un opéra intitulé Death in Venice. Et les similitudes entre Visconti et Britten sont intéressantes. Tous deux ont une vision très musicale de l'œuvre de Thomas Mann, une musique forcément mélancolique, ce qui peut être rapproché du fait que le musicien comme le cinéaste, tous deux homosexuels, déjà âgés, meurent la même année en 1976, peu de temps après avoir créé leur œuvre, comme s'ils s'étaient eux aussi identifiés aux héros de la nouvelle. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai trouvé et qui m'a donc intéressée, c'est celui qui a inspiré l'adolescent de la nouvelle de Thomas Mann, existait bien. Il se nommait Vladislav Mose, mais on l'appelait Adzio ou Vladio. C'était un baron polonais qui est né en 1900, qui est mort en 1986, que Thomas Mann a effectivement rencontré en 1911 à Venise. Et que ce polonais était père de deux enfants et qu'il y a une survivante, la baronne Marie-Meuse Tarchaka, amie intime d'un écrivain français qui est toujours en vie et qui habite donc en France, Christian Morel de Sarcus. Et donc ce Vadzio, ce polonais, a été retrouvé par le traducteur polonais de Thomas Mann, alors je prononce peut-être pas très bien, Andrzej Tolewski Zowski en 1964. Voilà. Voilà tout ce que je pourrais dire sur la Mort à Venise de Thomas Mann.
Michel,
une petite respiration musicale.
Oui,
voilà.
Bien volontiers. Thank you.
Voilà, des crescendo de cette symphonie numéro 5 de Gustave Mahler, qui est le fil conducteur véritablement intrinsèque de cette émission, pour mettre en exergue des reflets, qu'il s'agisse de reflets musicaux ou encore cinématographiques, puisque cette symphonie a investi bon nombre de productions cinématographiques, Michel.
Oui, j'ai découvert qu'il y avait pratiquement 25 films où la musique de Mahler, où la vie de Mahler a donné lieu à des sujets qui ont été traités par ces cinéastes. Ça m'a impressionné parce qu'aucun musicien n'a eu autant de droits, autant d'égards. Voilà, donc je crois qu'il faut maintenant parler un petit peu de Visconti, qui est quand même aussi un des piliers de notre émission aujourd'hui.
Tout à fait, une véritable résonance entre Thomas Mann, Visconti, et puis pour le côté aussi d'encadrement musical, Gustav Mahler, qui est dans la symphonie numéro 5. Et l'articulation de ce film que Marie-Hélène a pu évoquer tout à l'heure, Mort à Venise, réalisé en 1971 par Luchino Visconti, un grand cinéaste italien, un spécialiste de grandes fresques historiques et qui est par ailleurs de famille noble italienne, qui a une carrière entre l'équitation, on peut dire, qui était passionné de chevaux et puis qui a finalement donné plus de contours derrière la caméra et en tant que réalisateur, notamment de ce film, puisqu'on parlait de fresques historiques, Les Damnés en 1969, qui peut peut-être résonner un peu dans nos têtes sur l'avènement du Troisième Reich, et un peu plus de manière contemporaine sur ce film Mort à Venise en 1971, qui montre encore un tout petit peu plus loin la décadence, et puis filmer toujours des destins tourmentés, voire décadents, de ces personnages. C'est ainsi qu'on retombe sur ce personnage dont nous parlait Marie-Hélène, et qui est pour cette occasion un musicien et non pas un écrivain. C'est vraiment une résonance du film de Thomas Mann avec un peu des aspects quelque peu différents. Mais ceci dit, l'essence reste la même. On retrouve ce personnage dans la Belle Époque qui raconte les doutes finalement d'un musicien en manque d'inspiration et qui va retrouver le goût, son art, grâce à un jeune adolescent qu'il rencontre dans le film. Et finalement, ce film qui sera aussi un aspect d'une tétralogie qu'avait débuté Visconti et dont le film Mort à Venise est le troisième épisode. Il n'arrivera pas à terminer le quatrième puisqu'il mourra avant. On peut ceci dit souligner que durant cette même période, juste après ce film Mort à Venise en 1972, dans cette même thématique qu'il évoque ensuite dans un film qui s'intitule Ludwig, un roi de Bavière, de son couronnement à sa mort, joué par Helmut Berger, le roi qui est trahi, amoureux de sa cousine et qui le rejette, et tourmenté par ses penchants homosexuels. Voilà, on revient toujours un peu sur cet aspect tourmenté qui a été déjà bien introduit par Thomas Mann au début du XXe siècle, dans les années 1910. Voilà. Si vous le souhaitez, pour une petite figuration tout en son, qui même avec quelques dialogues en italien pourra faire revivre pour une petite minute un extrait du film, si vous le souhaitez, de Mort à Venise, 1971, réalisé par Luchino Visconti.
Grigi.
Sì, certo. E sa perché, signore? Per negligenza. Per un certo disinteresse all'esteriorità. Comprensibile in un personaggio importante, ma non per questo lodevole.
No.
Anzi, proprio le persone come lei non dovrebbero essere schiave di preconcetti in fatto di naturalezza o di artificio. D'altronde, l'età che noi abbiamo è quella che il cuore e lo spirito sentono di avere. Nel caso suo, signor mio, si ha diritto al proprio colore naturale. Se permette, scusi. Glielo restituisco immediatamente.
Come?
Lasci fare a me.
Thank you.
Voilà pour quelques petites minutes d'illustration qui peuvent nous remettre un peu dans le film de Luchino Visconti, Mort à Venise, réalisé en 1971, à qui l'on recommande de voir effectivement toute cette époque avec Thomas Mann en tâche de fond, Michel.
Voilà, donc on a entendu les quelques notes de l'adagietto de la 5e symphonie. Alors, c'est toute une histoire, cet adagietto, puisque... Donc, comme je vous l'ai dit, Mahler avait rencontré Alma Schindler, et donc il va l'épouser plus tard, mais pour lui déclarer son amour, il a fait quelque chose de particulier, il ne lui l'a pas dit. Il lui a envoyé la partition manuscrite de ce mouvement qui est la musique du film dont on a entendu la fin et que nous écouterons tout à l'heure. Ça a été sa façon de déclarer son amour à Alma, et Alma l'a très bien compris. Elle n'a pas eu besoin d'explications et de mots, mais un musicien, s'il ne le dit pas en musique, hein, comment peut-il le dire? Voilà, donc c'est quand même intéressant de savoir que ce morceau de musique, hein, on voit la lagune à Venise, dans le brouillard, les bateaux qui passent. Enfin, c'est des images quand même de peintres impressionnistes. Hein. Ces nuages, ces flous, hein. Ces maillots de bain rayés, vivants, bon, toute cette atmosphère. C'est très proustien, hein, quand même.
Tout à fait.
Donc c'est une réussite. Et comment ces trois personnes se sont retrouvées dans un mouvement de création qui est quand même extraordinaire pour nous. Moi, j'ai toujours du plaisir à revoir ce film. Alors maintenant, pour finir, hein, je vous propose que nous écoutions cette dédicace à Alma Mahler. Hein, nous écoutons l'adagio de la 5e symphonie de Mahler.
Et voilà pour conclure Michel Jardella et Marie-Hélène Baracan autour de ce fil conducteur que nous avons pu découvrir et toute l'histoire aussi qui s'entrelace avec cette cinquième symphonie de Gustave Mahler. Un petit mot pour terminer, pour refermer l'émission, Michel.
Voilà, il y a des fois des gens qui se rencontrent et qui font quelque chose de bien. Hein. C'est Mahler, Visconti, Thomas Mann. Ça a été une rencontre inespérée et nous en avons quand même bien profité. Enfin, moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde, quand le film repasse, on le regarde. Hein. C'est quand même particulièrement une réussite pour tout le monde. Hein. Alors, autant en profiter quand on a des belles choses. Hein.
Après, d'autres symphonies ont suivi sans s'y attarder véritablement,
mais oui.
De Gustave Mahler qui ont aussi eu leur résonance.
Oui, alors il y a eu sa cinquième symphonie, sa sixième symphonie qui est un peu moins connue, la septième, le chant de la nuit, la huitième symphonie qui est la symphonie des mille, et comme son nom l'indique, il faut être pratiquement mille pour la chanter, hein. C'est des effectifs orchestraux colossaux, hein. C'est extraordinaire à entendre. Des fois, sur Arte, il arrive que l'Allemagne nous en fasse, ou l'Autriche, ou Vienne nous en transmette. Hein. Mais bon, et puis il y a sa neuvième symphonie. Alors, quand il a écrit sa neuvième symphonie, il a eu une angoisse terrible. Terrible, terrible. Bruckner a écrit 9 symphonies, il est mort. Beethoven a écrit 9 symphonies, il est mort. Schubert a écrit 9 symphonies, il est mort. Donc, il était encore en vie, lui.
Il a hésité.
Il a hésité. Alors, il a un peu tourné la chose. Il a écrit un truc extraordinaire qui s'appelle Le Chant de la Terre. Le Chant de la Terre, ça a été une de ses dernières œuvres, qui est quelque chose de magnifique. C'est sur des chants, des poèmes japonais et chinois. Et il a écrit cette musique. Mais bon, il avait commencé à écrire une dixième symphonie. Mais il n'a écrit que le mouvement central que nous pouvons écouter. Et des musiciens anglais, Derek Cox, je crois, a réécrit, parce qu'il avait laissé des tas de documents, toutes les esquisses de cette dixième symphonie. Et il les a repris, les a réorchestrés, réarrangés. Et de l'unanimité générale, c'est du Mahler. Hein. Mmh. Ouais, donc, c'est quand même intéressant cette histoire. L'histoire de Gustave Mahler, cet homme qui a quand même changé notre regard sur la musique. C'est quand même Schoenberg, la musique dodécaphonique après, elle lui doit beaucoup. Shostakovich lui doit tout. Bon, c'est un jalon de notre histoire de l'humanité.
Voilà, il a insufflé des choses
oui,
nombreuses.
Et très riches.
Et très riches et qui ont
débouché,
novatrices, hein, pour l'époque.
Oui, qui ont eu un avenir.
Un avenir, oui.
Voilà.
Et qui résonne toujours.
Qui résonne toujours et que nous pouvons toujours écouter.
Et merci beaucoup Marie-Hélène Baracan aussi pour votre contribution à propos bien effectivement d'une autre strate effectivement de la musique de Gustave Mahler, c'est Thomas Mann hein, qui a eu un certain écho.
Oui, ben je rajouterais que bon, c'est vrai que Thomas Mann avait une passion pour la musique, hein, il jouait lui-même du violon. Mmh. Hein. Donc et puis s'il n'avait pas été écrivain, il a toujours avoué à sa famille qu'il aurait été chef d'orchestre.
Ah oui.
Ouais, donc c'était quand même un musicien comme beaucoup d'Allemands, ils adorent la musique, hein. Ils sont très musiciens, très mélomanes, hein. Plus que les Français. Voilà, ce sera ma conclusion.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toute l'approche de cet univers autour de Gustave Mahler.